L'élection de Donald Trump a bouleversé le monde, mais de quelle manière exactement? Quels sont les changements et les conséquences que nous allons voir dans le monde entier? Aujourd'hui sur Trumpet World, nous allons jeter un coup d'œil sur la façon dont la présidence de Donald Trump pourrait changer le Moyen-Orient et l'Asie. Bienvenue à Trumpet World. Ici Richard Palmer, rédacteur adjoint de latrompette.fr. J'aimerais également accueillir mon collègue, Jérémy Jacques, notre analyste principal pour Asie. Merci d'être avec nous, Jérémy.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je pense que même alors que les voix étaient toujours en train d'être dépouillées, on pouvait constater une vague de panique chez les dirigeants européens. Et seulement quelques heures après, le gouvernement allemand s'est effondré. Les Allemands sont très inquiets et se demandent maintenant ce qu'ils doivent faire alors que Donald Trump est de retour. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à cela. C'est pourtant la nouvelle réalité et l'Allemagne doit maintenant tout réévaluer dans un très court délai. Alors, nous nous tournons maintenant à vous, Jérémy, et à votre région. À votre avis, quels sont les grands changements auxquels il faut prêter attention en Asie ?
Il y aura effectivement de grands changements et de lourdes conséquences. Et j'aimerais commencer par la Russie, qui avait espéré une victoire de Trump. Ce dernier a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait lever les sanctions imposées à la Russie. Ces sanctions avaient été imposées à la Russie pour la punir de sa guerre contre l'Ukraine et pour essayer d'empêcher les Russes de continuer à financer la guerre. Donc, si ces sanctions sont levées, en partie ou en totalité, ce sera évidemment une très bonne nouvelle pour la Russie. Monsieur Trump a également déclaré qu'il mettra fin à la guerre contre la Russie dans les 24 heures suivant son entrée en fonction. En réalité, cela signifie geler le conflit et non y mettre fin. Il s'agit de le geler en disant que la Russie a des intérêts légitimes en Ukraine et que l'Ukraine, le souhaite ou non, elle doit tolérer les intérêts de la Russie en cédant une grande partie de sa population et de son territoire aux Russes. D'après ce que nous savons, c'est en quelque sorte le fondement du plan du président Trump. Pour ces raisons, Vladimir Poutine et de nombreux autres Russes sont quelque peu optimistes quant à la victoire de M. Trump. Poutine a félicité Trump après sa victoire et l'a qualifié de courageux et de véritable homme. L'allié de Poutine, Dmitri Medvedev, a publié une déclaration disant que la victoire de Trump sera, je cite, « utile pour la Russie ». En effet, la politique plus isolationniste de Trump, plus axée sur l'Amérique, pourrait laisser à la Russie un champ d'action plus grand. La déclaration complète de Medvedev est la suivante. Trump a une caractéristique qui nous profite. En tant qu'homme d'affaires jusqu'au cœur, il déteste consacrer de l'argent aux alliés insensés et aux projets caritatifs bêtes. Fin de citation. Il s'agit de Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et actuel allié de Vladimir Poutine. Un homme politique russe, Alexandre Dougin, est allé encore plus loin. Monsieur Dougin est un membre éminent du parti de Monsieur Poutine. Après la victoire de Trump, il a écrit « Nous avons gagné. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Les mondialistes ont perdu leur dernier combat. » Fin de citation. Nous assistons donc à un certain triomphalisme de la part de la Russie, mais ce triomphalisme a été en partie limité. Pour en revenir à la déclaration de Medvedev il y a un instant, après avoir dit que la victoire de Trump peut profiter à la Russie, il a poursuivi en reconnaissant le système américain de freins et contrepoids, c'est-à-dire que les plans de Trump pourraient ne pas se réaliser comme il le souhaite. Medvedev a déclaré « La question est de savoir combien Trump sera obligé à donner à la guerre. Il est têtu, mais le système américain, est plus fort. » Fin de citation. Medvedev reconnaît donc que l'Amérique n'est pas une dictature comme l'est la Russie, et qu'il est difficile pour un président américain, même un président américain fort, de toujours affirmer sa volonté puisque les pères fondateurs de l'Amérique ont conçu le système de manière à répartir le pouvoir. Mais des rapports ont également circulé selon lesquels la Russie se réjouit au retour de Trump parce qu'elle déteste l'OTAN. Il s'agit bien sûr de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui lie l'Amérique et l'Europe en tant qu'alliés militaires. Les Russes détestent cette organisation. Et ils savent que Trump n'est pas trop favorable à l'OTAN. Ils pensent que les États-Unis dépensent plus qu'ils ne le devraient dans le cadre de l'OTAN et que les nations européennes ne dépensent pas autant qu'elles le devraient. Il est donc probable que Trump, dans son second mandat, se préoccupera encore moins de plaire aux Européens. Nous nous attendons même à des tarifs douaniers élevés sur les produits européens. Tout cela pourrait affaiblir l'OTAN. Et une OTAN plus faible est une très bonne nouvelle pour la Russie, car cela signifie que la Russie est plus libre de faire la guerre aux nations qu'elle aimerait conquérir. Donc la Russie fait preuve d'un certain optimisme à l'égard de la victoire de Trump, mais il est limité. Les Russes ne sont pas vraiment en train de sabler le champagne, pour ainsi dire. En fait, si vous regardez l'homme que Trump a désigné comme son conseiller à la sécurité nationale, le membre du Congrès Mike Waltz, il semble que la situation pourrait en fait être pire pour la Russie que ce que nous pensions. Waltz est un ancien combattant et il s'est déjà déclaré favorable à des sanctions encore plus lourdes contre la Russie. Il a également évoqué la possibilité de permettre à l'Ukraine de frapper plus profondément à l'intérieur de la Russie grâce aux armes américaines, afin de mettre fin à la guerre. Plus récemment, il semble qu'il ait un peu fait marche arrière sur ce point. En tout cas, la nomination de Mike Waltz pourrait signifier que les propos de Trump sur le fait de forcer l'Ukraine à céder du territoire et une partie de sa population à la Russie étaient peut-être des propos de campagne destinés à le différencier de Kamala Harris et de Joe Biden. Je pense donc que cette nomination pourrait indiquer une position anti-russe plus forte sous Trump que ce que nous attendions. Et aussi, il faut aussi se rappeler que les déclarations comme celles que j'ai lues de Poutine, de Medvedev, d'Alexandre Douguin ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Dans de nombreux cas, les Russes veulent simplement diviser les Américains. Alors ce qu'ils disent est calculé dans ce but. Ils savent comment ils sont perçus par la plupart des Américains et utilisent souvent la psychologie inversée, la double psychologie inversée, la triple psychologie inversée. Il existe toutes sortes de nuances et de subterfuges avec les Russes. C'est un peuple énigmatique. Il faut donc toujours garder cela à l'esprit. La dernière chose que je voulais dire sur la façon dont la Russie perçoit le retour de Trump, c'est que les Russes se souviennent très bien que c'est Trump qui a bloqué le gazoduc Nord Stream 2 pendant son premier mandat. Il s'agissait d'une mesure importante destinée à réduire le pouvoir de la Russie sur l'Europe. Poutine et les autres Russes savent donc que Trump n'est pas faible à l'égard de la Russie. Et les Russes savent que Trump exerce parfois son pouvoir de manière très décisive. Dans l'ensemble, ils seront donc reconnaissants, bien sûr, si Trump oblige l'Ukraine à renoncer à une partie de sa population et de son territoire en vue d'une paix négociée. Mais de nombreuses questions demeurent, y compris la question de savoir si cela se produira vraiment. Et même si cela se produit, à partir de ce moment-là, je pense que nous verrons la Russie se comporter de manière un peu plus prudente au cours des prochaines années, pendant qu'elle reconstruit sa puissance et attend en quelque sorte le bon moment.
Je pense que ce n'est pas facile à analyser. Il y a certains, je pense, qui semblent considérer la situation en Ukraine comme très évidente et qui croient savoir exactement ce que fera Donald Trump. Mais je pense que vous avez raison de dire que la Russie connaît les récits. Elle sait que Donald Trump est souvent accusé d'être un larbin de la Russie et elle aime bien jouer sur cela. Je ne pense donc pas que nous puissions prendre ces remarques des Russes pour argent comptant. Et je pense qu'il est important de se rappeler que ce n'était pas pendant le mandat de Donald Trump que la Russie a envahi l'Ukraine. C'était pendant le mandat de Joe Biden. Et je pense que c'est assez compréhensible. Si vous contrariez Donald Trump, il peut réagir de manière imprévisible. Mais je pense qu'il y aurait presque certainement une riposte forte à toute action allant à l'encontre des intérêts américains tels que Trump les perçoit. Ainsi, s'il estime que l'invasion de l'Ukraine va à l'encontre des intérêts américains, il réagira fermement. Par contre, Joe Biden a dit « S'il n'y a qu'une petite invasion, nous ne ferons rien ». Il a fait preuve d'une grande faiblesse sur ce point. Avec Trump, cela dépend un peu des circonstances. Or, je crois que la Russie est nerveuse face à l'approche trumpiste. Ensuite, il y a la question de savoir si Donald Trump est bien capable de mettre fin à la guerre en 24 heures. Évidemment, il peut mettre fin au soutien de l'Amérique à l'Ukraine, mais il ne peut pas obliger l'Ukraine à signer un traité de paix. Et je pense que c'est intéressant de voir que de nombreux dirigeants européens, en particulier Emmanuel Macron, ont essayé de proposer une solution où les fonds européens subviendront davantage à la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a une certaine pression dans ce sens. Sous conditions normales, je ne pense pas que l'Allemagne permettrait une telle chose. Mais maintenant, ses dirigeants sont en plein désarroi. L'Allemagne risque maintenant de ne pas être en mesure de répondre avec suffisamment d'autorité et de ne pas pouvoir donner une réponse décisive. Et peut-être que Macron obtiendra ce qu'il souhaite. Donc, je vois également la possibilité que la guerre se poursuive malgré Donald Trump.
C'est un très bon point. Et je pense que les dirigeants ukrainiens ont déjà laissé entendre que même si les États-Unis retiraient complètement leur financement et leur soutien, nombre d'entre eux seraient enclins à vouloir continuer à se battre du mieux qu'ils le peuvent et ils espéreraient que les puissances européennes interviennent et les aident. Donc, il y a certainement d'autres acteurs dont il faut tenir compte, outre les États-Unis.
Et je ne pense pas non plus que Donald Trump conclurait un traité avec la Russie qui donne à Moscou tout ce qu'elle veut. Je pense qu'il ne va rien lâcher, voire obliger la Russie à se plier d'une certaine manière. Je peux même envisager une situation où il dit aux Russes « Écoutez, Joe Biden a freiné l'Ukraine. Joe Biden a refusé de donner certains types d'armes à l'Ukraine ou a interdit l'usage de certains types d'armes contre des cibles en Russie. Mais nous allons supprimer tout cela. Plus de restreints sur l'Ukraine. Nous mettrons fin à cette blague. Nous laisserons les Ukrainiens utiliser les armes qu'ils le souhaitent ou qu'ils le souhaitent, à moins que vous n'acceptiez ces conditions. Voilà ce que nous attendons de vous. Et l'Ukraine, voilà ce que nous voulons de vous. Si vous n'acceptez pas ces conditions, nous mettrons fin au financement. Si vous, la Russie, ne l'acceptez pas, nous accorderons davantage de fonds à l'Ukraine ou lèverons les restrictions. Considérez les antécédents de la Russie en Ukraine. Il est clair que si l'on donne à la Russie n'importe quel territoire, il est presque certain que Poutine s'en servira pour lancer une invasion quelque part et qu'il ne cessera de planifier la guerre. Et à long terme, il est très difficile pour l'Ukraine de développer une industrie capable de rivaliser avec celle de la Russie. Il semble donc que tout ce qui laisse la Russie en possession du territoire ukrainien ne sera qu'une rampe de lancement permettant à la Russie de conquérir plus de territoire ukrainien. La Russie n'est pas vaincue. À long terme, cela n'a peut-être pas autant d'importance, mais cela pourrait quand même régler les choses pour l'instant. Mais bien sûr, la Russie n'est pas le seul pays à surveiller. Je pense que l'autre pays qui revêt une certaine importance, du moins en ce qui concerne les récentes nominations de Trump, c'est la Chine. Que pensez-vous que la présidence de Donald Trump signifie pour la Chine, Taïwan et tous les pays qui font la une ces derniers jours ?
La Chine est bien sûr un point chaud important à surveiller. Et je pense que Xi Jinping et les autres dirigeants du Parti communiste chinois ont des sentiments mitigés à l'égard du second mandat de Trump. D'une part, l'économie chinoise est sous-performante à un degré alarmant en ce moment, et de nombreux secteurs sont en difficulté, surtout l'immobilier et l'industrie manufacturière. À l'heure actuelle, l'endettement de la Chine est même pire que celui des États-Unis. Le taux de chômage des jeunes est monté en flèche et a presque atteint les 20% aujourd'hui. L'économie dans son ensemble est donc en difficulté. Cette situation s'explique en partie par le fait que M. Biden n'a jamais mis fin à la guerre commerciale que le président Trump a déclenchée avec la Chine au cours de son premier mandat. L'administration Biden a laissé en place les droits de douane que Trump avait imposés sur les produits chinois, et Biden les a même renforcés de quelques manières significatives en imposant de nouvelles taxes sur l'acier chinois, les cellules solaires et les véhicules électriques. Enfin, l'administration Biden a mis en œuvre une loi sur les micropuces. C'est une série de limites imposées à l'exportation des semi-conducteurs. Tout cela avait pour but de paralyser la capacité de la Chine à fabriquer des semi-conducteurs de pointe. Cette loi encourage également la fabrication de micropuces aux États-Unis. M. Trump s'est en fait déclaré contre cette loi. Il la juge inefficace et trop coûteuse et estime qu'elle pourrait être remplacée plus intelligemment par des droits de douane. Je pense donc que la Chine serait ravie si M. Trump décidait de supprimer cette loi, ce qui pourrait être une véritable aubaine pour l'économie chinoise dans un secteur vital. D'un autre côté, M. Trump a évoqué une augmentation importante des droits de douane au cours de son second mandat, et cette augmentation porterait essentiellement sur les produits chinois. Il envisage des droits pouvant aller jusqu'à 60% sur les importations chinoises, ce qui serait vraiment catastrophique pour l'économie chinoise. À elle seule, cette mesure pourrait réduire d'environ 2,5% la croissance prévue de la Chine. Cela porterait donc un coup dur à l'économie chinoise déjà instable, et cela pourrait permettre à Trump de prendre l'avantage sur la Chine et peut-être même d'amener les Chinois à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine. C'est donc une possibilité. Et aussi en parlant de guerre, ce n'est un secret pour personne que la Chine veut s'emparer de Taïwan. Et la Chine a bien sûr menacé de faire la guerre. Et je crois que les Chinois perçoivent M. Trump, pour reprendre les mots de M. Medvedev, comme un homme d'affaires avisé qui n'aime pas donner de l'argent à des pays qui ne le méritent pas et à des alliés insensés. Les Russes et les Chinois espèrent donc que l'Ukraine et Taïwan fassent partie de ces alliés insensés. M. Trump a critiqué les relations entre l'Amérique et Taïwan, il a critiqué les sommes versées par les États-Unis et il a déclaré que Taïwan devrait acheter plus d'armes et payer davantage à l'Amérique pour tout cela. Les Chinois sont donc peut-être un peu optimistes et espèrent que M. Trump serait un peu moins sévère face à une prise de contrôle de Taïwan par la Chine. Mais je pense vraiment que cet optimisme est mal avisé. M. Trump a récemment déclaré que si la Chine s'emparait de Taïwan, il passerait des droits de douane de 60% au 150%, voire 200% sur les produits chinois. Il a également déclaré récemment que les Chinois savent qu'ils ne doivent jamais essayer d'envahir Taïwan alors qu'il est au pouvoir, parce qu'ils savent qu'il est fou. Il a même ajouté un juron dans cette phrase pour souligner, je pense, à quel point il est fou. Il est également intéressant de noter que Taïwan répond aux plaintes de M. Trump, selon lesquelles le pays n'achète pas assez d'armes américaines. Après la victoire de Trump, Taïwan a annoncé son intention d'acheter une énorme quantité d'armes américaines. Je pense qu'il s'agit de 60 avions de chasse F-35 et de 400 missiles de type Patriot. Il semble donc que Taïwan réagisse avec beaucoup d'enthousiasme aux pressions exercées par Trump, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Chine. Donc oui, il est vrai que Trump n'est pas ravi de la dynamique américano-taïwanaise et qu'il pense que Taïwan devrait dépenser plus pour sa défense. Mais je ne pense pas que ces réticences de sa part se traduisent par une neutralité quelconque à l'égard des visées de la Chine sur Taïwan. Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé le président Trump il y a quelques jours pour le féliciter de sa victoire et il a fait part de son espoir que les États-Unis et la Chine puissent s'entendre et coopérer. Il serait bon qu'ils prennent des mesures pour favoriser la coopération, comme mettre fin à son soutien direct à la guerre russe contre l'Ukraine ou empêcher ses forces militaires et paramilitaires de s'opposer aux Philippines, au Vietnam, à Taïwan, au Japon et à tant d'autres voisins de la Chine. Ou peut-être que Xi Jinping pourrait dire à ses entreprises d'arrêter de voler tout ce qu'elles peuvent aux entreprises américaines, britanniques et européennes avec lesquelles elles travaillent. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu de tel de la part de Xi Jinping. Au lieu de cela, il se contente de dire quelques mots creux à Trump, le félicitant pour sa victoire aux urnes, et disant qu'on doit coopérer, tout en continuant à contrarier et à intimider le monde par tous les moyens possibles. Donc pour résumer, je pense que la Chine est surtout nerveuse à l'idée d'un retour de Trump. Et je pense qu'elle pourrait se comporter un peu mieux, au moins pendant un certain temps, en raison de son retour. Cependant, cela ne signifie pas qu'il y ait un changement significatif dans le cœur des Chinois.
Je trouve intéressant de constater ce qui se passe avec Taïwan, car c'est une indication que certaines des dispositions de Trump ont déjà leur effet. C'est remarquablement vite. Cette commande d'armes de la part de Taïwan serait d'une valeur de 15 milliards d'euros, je crois. Et ce, à peine une semaine après son élection. Je crois que c'est une indication qu'il s'y connaît dans certains de ses domaines et qu'il a en fait de bons conseils à donner. Et je crois que ses critiques, à l'égard de la Chine et du Japon avant elles, sont justifiées car ils ont exploité les États-Unis sur le plan économique. Il y a plusieurs choses ici qui ressortent. D'abord, on envisage facilement l'Europe réagir de la même manière que Taïwan. Et je pense qu'en ce qui concerne Donald Trump, il s'agirait d'une réaction désirable. Par exemple, s'il y a des accords de grande échelle, ou même si les puissances européennes dépensent plus pour la défense, de sorte que l'Amérique n'ait pas à le faire à leur place. Cela devient envisageable lorsqu'on se penche sur les conseillers de Trump. Citons parmi d'autres Mike Waltz, c'est le nouveau conseiller à la sécurité nationale que vous avez mentionné tout à l'heure, qui était initialement plutôt favorable à ce que les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Puis, je pense qu'il a changé d'avis ces dernières années pour dire que la plus grande menace est en fait la Chine. Et en fait, pour permettre à l'Amérique de faire face à la menace chinoise dans la mesure nécessaire, il croit qu'il faut y accorder plus d'attention et ne pas se soucier de soutenir l'Europe et l'Ukraine comme auparavant. Ce soutien sera alors réduit. Et je pense que cela correspondrait à la vision du monde de Donald Trump sur la Chine. En effet, il est nécessaire d'affronter la Chine. Je ne pense pas qu'il ait tort de penser que la Chine est une menace importante et que Washington devrait la prendre au sérieux. Nous avons même publié des articles dans La Trompette, par exemple « Réveillez-vous face à la menace de la Chine ». Donc, dire que Washington devrait concentrer ses ressources pour faire face à ce problème, c'est vrai. Mais cela est également en accord avec l'opinion de Donald Trump selon laquelle nous devons obliger les Européens à payer davantage. Et cela pourrait avoir pour conséquence que l'Europe continue à renforcer son armée et à devenir une grande puissance militaire. Et c'est en fait ce que désire M. Trump. C'est compréhensible, car l'Amérique fait les frais pour la protection de l'Europe. Mais considérez aussi ce que M. Macron a dit il y a plusieurs années. Nous devons faire de l'Europe un troisième pôle, une puissance militaire indépendante contre la Russie, contre la Chine. Puis il a ajouté, et contre les États-Unis si nécessaire. Une Europe militarisée n'est pas un allié automatique des États-Unis, contrairement à une Europe qui dépend entièrement des États-Unis pour sa sécurité. L'Europe n'est pas Taïwan. Si l'Europe réagit en se lançant dans des dépenses massives, elle ne restera pas dépendante de l'Amérique face à un adversaire beaucoup plus important, comme le sera Taïwan. On voit donc comment le fait d'accorder plus d'attention à l'Asie et à la Chine pourrait mettre plus de pression sur l'Europe pour qu'elle accélère sa croissance, qu'elle se dote d'un leader fort, qu'elle renforce son armée. Ce sont des choses que nous avons prophétisées bien avant l'entrée en fonction de Donald Trump. Et je pense que le plan tarifaire de Trump, dont vous avez parlé, est lié à cela. Parce que la Chine est certainement le pays qu'il vise le plus, mais aussi l'Europe. Encore une fois, il y a de bonnes raisons pour vouloir hausser les droits de douane. Ce n'est pas irrationnel. Et je pense que ses détracteurs rejettent trop rapidement sa position sur l'économie européenne en disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il sait effectivement de quoi il parle. L'Europe est plus sournoise que la Chine dans la manière dont elle soutient son industrie. La Chine est un État communiste à parti unique. S'il veut offrir aux entreprises de l'électricité à bas prix, le gouvernement peut simplement le faire. Il lui est donc très facile de subventionner ces entreprises, de rendre artificiellement moins cher la fabrication de produits en Chine et de voler tous ses emplois à l'Amérique. L'Europe est beaucoup plus opaque sur la manière dont elle procède. Elle n'impose pas de droits de douane sur les marchandises, mais elle impose toutes sortes de réglementations. Certaines d'entre elles concernent la protection de l'environnement et augmentent les coûts pour les autres pays. L'euro lui-même est beaucoup plus faible que la valeur qu'aurait le Deutsche Mark allemand si c'était encore en usage, ce qui est une façon beaucoup plus subtile d'affaiblir artificiellement la monnaie allemande, de la même manière que la Chine a artificiellement affaibli sa monnaie dans le passé. L'Europe fait donc toutes sortes de choses pour exploiter les faiblesses des États-Unis. Je pense donc qu'il est compréhensible que Donald Trump réagisse en disant que le reste du monde doit partager davantage le fardeau. Mais je pense que le danger réside dans le niveau des droits de douane dont il parle. Il a parlé de 60% et il y a eu une interview dans laquelle lui ou l'un de ses partisans parlait de remplacer potentiellement l'impôt sur le revenu par des recettes provenant des droits de douane. Cela revient à déchirer le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale. Cela revient à déchirer l'accord auquel le monde est parvenu après la Seconde Guerre mondiale, selon lequel l'Amérique garantit et assure le système mondial de libre-échange et tous les autres pays sont autorisés à y participer. Et qu'en échange, ils ne construisent pas de grandes armées, ils ne deviennent pas des puissances indépendantes. Je comprends tout à fait qu'il y a certains qui n'aiment pas ce système. Il est vrai que les États-Unis ont fait plus que n'importe quelle autre nation pour soutenir ce système. À mon avis, c'est en raison de la structure de ce système que les autres pays n'ont pas assumé la responsabilité pour payer comme ils auraient dû le faire. Et il y avait probablement une meilleure façon de mettre cela en place en 1945 ou 1950 pour assurer que l'Europe paye plus de sa juste part plutôt que de créer des états-providence sociaux sur le dos de la sécurité américaine. Je pense donc que les détracteurs ont raison sur quelques points. Mais ce que Trump veut faire relève d'un bouleversement des fondements de la paix mondiale qui ont existé depuis 80 ans. Et cela risque d'avoir des conséquences importantes. Il est certain que si Donald Trump impose des droits de douane paralysants à l'Europe et à la Chine en même temps, il va changer fondamentalement l'ordre mondial d'une manière que nous n'avons pas vue depuis un siècle, voire plus. Ce serait un changement potentiellement plus important que la chute de l'URSS, car cela changerait la façon dont le monde est structuré.
C'est un excellent point, et je pense que nous devons nous attendre à des changements importants à l'horizon. En fait, la Bible indique clairement que les géants d'Asie, principalement la Russie et la Chine, ainsi que l'Europe, deviendront extrêmement puissants dans les années à venir. Ils seront en fait les nations dominantes du monde. Dans la Bible, il est question d'une époque appelée « les temps des nations ». Vous pouvez en lire plus dans l'Évangile de Luc. Et à cette époque, des nations comme la Russie, la Chine et l'Allemagne seront les principaux acteurs mondiaux. et vous pouvez constater dès maintenant qu'il y a une véritable lassitude chez les Américains à l'idée d'être en quelque sorte le gendarme du monde. Comme vous l'avez dit, cela fait 75 ou 80 ans que Washington joue le rôle de gendarme du monde, dépensant par ailleurs une énorme somme d'argent pour maintenir l'ordre. En réalité, tant à gauche qu'à droite, de plus en plus d'Américains disent « Mettons fin à cela. Laissons le reste du monde se débrouiller tout seul. Nous avons suffisamment de problèmes et nous n'avons pas assez d'argent pour tout régler. Nos ressources sont limitées. » Donc, si M. Trump, en mettant l'Amérique en premier, veut faire en sorte que l'Amérique soit moins le gendarme du monde, cela pourrait signifier que des pays comme la Russie et la Chine auraient un plus grand champ d'action pour s'emparer des nations qui les entourent. Nous pourrions alors assister à une intensification de ces temps de nations, mais que tout cela se produise rapidement ou après plusieurs années, d'une manière ou d'une autre, nous savons que les temps des nations sont déjà là à bien des égards. Et nous avons un article intitulé « Des dirigeants mondiaux qui n'ont plus d'esprit humain » par le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury. C'est au sujet des temps des nations, et il montre que ce sont des temps catastrophiques pour le monde entier. Or, il montre également que dans les évolutions actuelles autour du monde, il y a aussi de grandes raisons d'espérer et d'être optimiste. J'espère donc que vous lirez cet article pour mieux comprendre ces tendances.
Et nous mettrons un lien vers cet article dans la description. Pour ajouter à cela, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder certaines de ces autres prophéties sur les temps des nations qui parlent de ces nouvelles puissances qui s'unissent dans une alliance commerciale. Ainsi, Ésaïe 23 parle du marché des nations et énumère plusieurs de ces grandes puissances non israélites qui commerceront les unes avec les autres. Et c'est fascinant de les lire en combinaison avec des prophéties comme Deutéronome 28-52. Cette prophétie parle d'un siège contre les États-Unis dans tous ces goulots d'étranglement maritime stratégique. Et lorsqu'on met toutes ces prophéties ensemble, on voit qu'il y a une alliance commerciale. À mesure que nous entrons dans les temps des nations, ces puissances se réunissent dans le cadre d'une alliance commerciale et excluent les États-Unis. Donc, lorsqu'on entend parler de ce genre de régime tarifaire paralysant contre le reste du monde, on voit très bien comment cela pourrait s'inscrire dans l'essor de cette puissance européenne. Cela pourrait même être la manière spécifique dont ces puissances non israélites se réunissent. En fait, l'idée d'imposer des droits de douane de 60%, c'est-à-dire d'un niveau tel que l'Amérique pourrait annuler son impôt sur le revenu, c'est révolutionnaire au point où j'ai du mal à voir Donald Trump mettre cela à l'exécution, surtout au début. Il est donc possible que cela ne se produise pas. Je pense qu'un autre aspect intéressant en ce qui concerne la prophétie biblique, c'est l'alliance russo-chinoise. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises dans cette émission, il est prophétisé qu'un prince de roche dirige une alliance entre la Russie et la Chine. Et ces prophéties décrivent toujours la Russie comme étant à la tête. C'est toujours le prince de Russie, ce prince de roche biblique, qui dirige l'alliance, pas la Chine. Monsieur Fleury a déjà expliqué que cela veut dire que la Russie sera le partenaire principal. On peut donc se demander si, avec le retour de Donald Trump sur la scène et sa défense plus énergique des intérêts américains, et en particulier des intérêts commerciaux de l'Amérique, qui sont exploités par la Chine, il ne serait pas parfaitement conforme à la prophétie biblique que la Chine subisse un énorme revers. Et cela pourrait placer la Chine clairement en deuxième position derrière la Russie, alors que beaucoup d'analystes diraient actuellement que la Chine est en fait la plus puissante des deux. Une telle chose serait donc tout à fait conforme à la prophétie biblique. Nous observons donc cette évolution vers un monde où l'Amérique n'est plus le gendarme, où l'on assiste à l'ascension de ces puissances non israélites et où la Russie s'allie à la Russie. Vous verrez également l'Europe devenir une puissance à part entière. Elle est si grande qu'elle ne compte plus sur l'Amérique pour assurer sa sécurité. Mais très vite, elle aura des idées et des intérêts divergents. Elle se heurtera alors aux États-Unis de façon spectaculaire, ainsi qu'au Royaume-Uni, à Israël. Ces puissances non israélites, cette puissance bestiale qui monte en Europe, la Russie et la Chine, coopéreront dans une certaine mesure pour faire tomber les États-Unis. Voilà les grandes lignes de ce dont nous parlons. Je pense que l'article que vous avez mentionné est excellent, car il replace tout cela dans le contexte biblique, à savoir que tout cela fait partie de la transformation du cœur de l'homme par Dieu. À l'heure actuelle, nous avons cette nature humaine malfaisante, et nous avons des dirigeants mondiaux avec des cœurs de bêtes qui conquièrent et détruisent d'autres nations. Cela fait 6000 ans que nous sommes en proie à ce problème. Il s'agit pour Dieu de provoquer un changement fondamental dans le cœur de l'humanité en intervenant d'une manière inédite dans les événements mondiaux. Et tout cela aboutit au retour de Jésus-Christ. Et c'est vraiment la bonne nouvelle et l'espoir derrière ce que nous avons vu avec le retour de Donald Trump et les élections américaines. Merci beaucoup, Jérémy. Nous allons faire une petite pause et lorsque nous serons de retour, nous parlerons avec Mihailo Zekic pour jeter un coup d'œil à la situation au Moyen-Orient dans le contexte du retour de Donald Trump. Un nouveau président américain est toujours une grande nouvelle pour le monde entier. Pourtant, je ne me souviens d'aucun autre moment où il y avait une telle divergence entre deux dirigeants, comme c'est le cas avec Joe Biden et Donald Trump. Je crois qu'il y a entre ces deux une fosse encore plus béante qu'il n'y en avait entre Jimmy Carter et Ronald Reagan. Il va y avoir des changements importants dans le monde entier, mais le Moyen-Orient est probablement plus touché que n'importe quelle autre région. Ces deux dirigeants ont des points de vue très divergents sur Israël, sur l'Iran et sur la manière dont les États-Unis devraient aborder la guerre en général. Pour nous aider à comprendre ce que ce changement pourrait signifier pour la région, selon la perspective de la prophétie biblique, nous accueillons maintenant Mihailo Zekic.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, Mihailo, quels sont les principaux changements auxquels vous vous attendez dans cette région du monde ?
La chose la plus importante à laquelle tout le monde pense est sans doute la guerre entre Israël et le Hamas, le Hezbollah, l'Iran lui-même et tous les autres représentants terroristes que l'Iran sponsorise. Cette région a certainement joué un rôle dans les élections américaines en raison des craintes d'une guerre qui s'éternise. On dit que l'administration Biden s'effondre et que tous ses projets autour du monde s'effondrent, alors Trump arrive pour faire le ménage. C'est également ce qu'on a dit à propos de l'Ukraine et de certains autres points chauds dans le monde. Israël est un cas un peu particulier. Comparé à d'autres points chauds, si vous remontez à 2020 ou à 2017, Israël avait à l'époque une relation très étroite avec Donald Trump en raison des accords d'Abraham qu'il a négociés. Trump a également reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et a adopté une position plus combative à l'égard de l'Iran. Maintenant que Trump est de retour, vous pouvez imaginer ce que pensent beaucoup d'Israéliens. En fait, voici comment la chaîne 14 israélienne a réagi lorsque la nouvelle de sa victoire électorale a été annoncée. Comme vous pouvez le voir, la chaîne 14 est conservatrice, mais outre ces gens, il y a beaucoup d'autres Israéliens qui sont enthousiastes à l'idée que Trump reprenne ses fonctions. À Tel Aviv et à Jérusalem, des gens ont installé un grand panneau d'affichage où on peut lire « Félicitations Monsieur Trump, rendez à Israël sa grandeur ». Il y a beaucoup de gens ordinaires qui en parlent, même sur YouTube on peut voir des agences de presse interroger des Israéliens au hasard dans la rue, et la plupart d'entre eux, du moins d'après ce que j'ai vu, qu'ils soient jeunes, vieux, immigrés, nés dans le pays, etc., sont en faveur du retour de Trump. Et ils sont très enthousiastes à la perspective d'un second mandat de Trump.
Et bien sûr, les terroristes réagissent de façon totalement opposée. C'est le Hezbollah qui a lancé presque immédiatement une attaque de missile sur la ville que Trump a sponsorisée dans le plateau du Golan. Cette ville a été créée pour célébrer la reconnaissance par Donald Trump de ce territoire comme appartenant à Israël. Les ennemis d'Israël sont donc tout à fait conscients du grand changement que cela représente.
En effet. Mais sur le terrain, ils ont de très bonnes raisons d'avoir peur. Trump n'a évidemment pas encore réfléchi à toutes les mesures politiques qu'il prendra. Sa préoccupation immédiate est de s'installer à la Maison-Blanche. Et il y a beaucoup de choses, j'en suis sûr, qu'il ne dit pas aux gens. Ce qu'il faut retenir également, c'est la déclaration qu'il a faite en matière de politique étrangère au Moyen-Orient.
I will end every single international crisis that the current administration has created. Including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world. I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price.
C'est une menace assez audacieuse. Il dit au Hamas, en gros, soit nous récupérons tous, au moins tous les otages américains, soit je vais intervenir personnellement et régler le problème. C'est très différent de ce que nous avons vu de la part de Joe Biden au cours de l'année écoulée. C'est presque un revirement total. On imagine mal Joe Biden exercer une telle pression sur le Hamas. Et le fait que tous ces accords de cessez-le-feu aient échoué montre que le Hamas ne prend pas non plus l'administration actuelle au sérieux. Pendant la majeure partie de sa campagne, Donald Trump a déclaré qu'il soutient Israël, mais a également sommé Israël de terminer la guerre rapidement. On pourrait en déduire qu'il veut se désengager, qu'il veut en finir, qu'il ne veut pas que les tensions s'intensifient. Mais c'est aussi un feu vert au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour qu'il fasse tout ce qu'il faut pour que la guerre se termine. Et bien sûr, on comprend pourquoi de nombreux Israéliens conservateurs se réjouissent à cette nouvelle.
Nous avons abordé ce sujet dans la discussion en groupe que j'ai eue avec Andrew Miller et Philippe Nice lorsque nous avons réagi à l'élection de mercredi dernier. À votre avis, comment se déroulera la période précédant l'investiture ? Joe Biden a en effet menacé Israël de conséquences s'il franchissait certaines limites. Cependant, ces conséquences sont beaucoup moins significatives, maintenant que Donald Trump pourrait potentiellement les retirer dès qu'il entrera en fonction d'ici 2 mois. Un embargo sur les armes, par exemple, ne dissuadera pas Israël s'il ne dure que 2 mois. Or, dans le même temps, les démocrates ont fait beaucoup pour punir Israël. Et je pense que la principale raison pour laquelle ils n'en ont pas fait plus est la peur des électeurs, car ils bénéficient encore d'un soutien important de la part des électeurs juifs. Ils ont essayé de marcher sur la corde raide. Il y a des juifs de gauche à New York qui les soutiennent. Il y a aussi des sympathisants du Hamas dans le Michigan qui les soutiennent. Les démocrates ne veulent pas les offenser tous les deux. Donc, ils ont continué à envoyer des armes à Israël, mais ont retenu les armes lourdes. L'imminence des élections a donc empêché Joe Biden de nuire à Israël autant qu'il le souhaitait, lui et la gauche. Est-ce une bonne nouvelle pour Israël parce que la menace de sanctions n'est plus sur la table? Ou bien, ou est-ce que ces quelques mois vont être vraiment difficiles parce que les considérations électorales ne limitent en plus l'administration Biden?
Eh bien, dans le cas d'Israël, nous voyons en ce moment des choses contradictoires. Certains rapports indiquent que Jérusalem aurait demandé à la Russie de s'impliquer dans les pourparlers avec le Hezbollah. La Russie et Israël n'ont pas de très bonnes relations en ce moment, surtout en raison du soutien israélien à l'Ukraine.
Et aussi, souvenez-vous, la Russie a soutenu les Houthis.
C'est vrai. Revenons maintenant à la toute fin du mandat de Barack Obama. Israël a essayé de courtiser Poutine pour qu'il oppose son veto à une résolution anti-israélienne parrainée par Obama. Je pense que le moment choisi est intéressant. Peut-être savent-ils quelque chose que nous ignorons. Personne ne sait si la Russie écouterait Israël à ce stade, et je voudrais aborder un autre point avant de passer à autre chose. Vous avez parlé des électeurs arabes du Michigan. La majorité d'entre eux ont en fait voté pour Trump, ou du moins Trump a obtenu une plus grande part de leur vote que Harris, parce qu'ils considèrent que l'administration Biden prolonge inutilement la guerre, et ils veulent évidemment que la guerre prenne fin, même si la Palestine n'est pas totalement libre. Mais pour en revenir à ce qu'Israël attend de cette administration, je dois avouer que nous avons vu beaucoup d'actions très inhabituelles de la part de Washington, et aussi d'un autre sponsor du Hamas, le Qatar. Récemment, les États-Unis ont stationné plusieurs bombardiers B-52 sur leur base militaire au Qatar pour se préparer à une éventuelle attaque iranienne contre Israël. De plus, le Qatar a récemment expulsé le Hamas de ses locaux à Doha, ce qui est une grande nouvelle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est apparemment la pression exercée par l'administration Biden. La question est maintenant de savoir pourquoi le Qatar agit ainsi en ce moment, alors que pendant les mandats de Biden et de Trump, il a abrité le Hamas et lui a envoyé de multiples millions de dollars. Je n'ai pas de réponse satisfaisante à cette question en ce moment, et je pense que personne n'en aura tant que nous ne disposerons pas de plus d'informations. Mais il est vrai que nous voyons des choses qui semblent contradictoires. En ce qui concerne l'Iran lui-même, je soupçonne que Téhéran est très nerveux en ce moment et qu'il ne va rien faire qui risquerait de mettre Trump en colère. Vendredi dernier, le ministère de la Justice a annoncé l'inculpation de quelqu'un à la solde de l'Iran qui aurait tenté de tuer Trump. Cela ne présentera pas l'Iran sous un jour favorable lorsque Donald Trump entre en fonction. Et le lendemain de sa victoire, le rial iranien est tombé à son plus bas niveau historique par rapport au dollar. Les résultats de l'élection ont donc provoqué la chute de l'économie iranienne. Bien sûr, l'Iran ne renoncera pas à ses objectifs. L'Iran n'a pas changé d'avis. Pourtant, compte tenu des antécédents de Trump, de ses sanctions et surtout de son assassinat de Qassem Soleimani, l'Iran devrait savoir qu'il faut rester très prudent pendant les quelques mois à venir.
Vous avez mentionné la façon dont Barack Obama, dans cette période délicate après les élections mais avant de quitter son poste, est intervenu en faveur d'une loi de l'ONU contre les colonies israéliennes. Et si je ne me trompe pas, c'était la première fois que l'ONU avait déclaré illégales les colonies israéliennes au niveau du Conseil de sécurité. Et c'était un coup dur pour Israël. Encore une fois, je ne pense pas que Barack Obama aurait osé faire cela avant les élections. Il a attendu le moment où il ne devait plus rendre des comptes dans le cadre de la démocratie avant de passer à l'acte. Or, en ce moment, on ne voit pas beaucoup de préparatifs de cette manière chez l'administration Biden.
Il pourrait très bien le faire.
C'est vrai, c'est une possibilité, mais cela ne s'est pas encore produit.
Pour l'instant, je pense que le Parti démocrate est trop occupé à faire le ménage, pour ainsi dire, et à essayer de résoudre ses divisions internes. Considérez la façon dont Obama a réagi ces derniers jours au déroulement des élections. Il y a aussi les accusations selon lesquelles Biden lui-même aurait tenté de saboter le processus démocratique et de se venger de ceux qui l'ont écarté de la course à la présidence. Cela dit, on sait bien que la fureur de Barack Obama à l'égard d'Israël n'a pratiquement pas de limite. Il a été extrêmement vindicatif à l'égard d'Israël par le passé. Et il est bien probable que, s'il sait qu'il va tomber, il va essayer d'entraîner dans sa chute Israël aussi. À ce stade, il se peut qu'il n'ait plus rien à perdre. Nous devrons donc attendre et voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines.
Je pense que vos commentaires nous ramènent à ce dont nous avons discuté avant, à savoir que le pouvoir de Barack Obama est en train d'être diminué. Je crois que nous avons vu cela se produire lors des élections, alors peut-être qu'il ne soit plus en mesure de se montrer vindicatif contre Israël. Dans notre numéro de septembre-octobre, que vous pouvez trouver sur notre site web, latrompette.fr, le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, a rédigé un article qui aborde la réalité spirituelle derrière la diminution du pouvoir de Barack Obama et pourquoi cela s'est produit. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire cet article. Mais je pense que vous avez visé juste Mihailo en disant que la diminution du pouvoir d'Obama pourrait avoir un impact sur le Moyen-Orient. Vous avez aussi évoqué le fait que maintenant, l'Iran doit se comporter avec beaucoup plus de prudence. Est-ce qu'on voit déjà d'autres exemples où l'Iran commence à faire marche arrière ?
Pas vraiment, mais nous n'en sommes qu'au début.
C'est vrai, il faut souligner que les élections ont eu lieu il y a seulement quelques semaines.
Comme vous l'avez dit, le Hezbollah continue de tirer ses missiles, le Hamas refuse toujours d'accepter un cessez-le-feu. Quant au Qatar, c'est la raison officielle pour laquelle il a expulsé le Hamas de Doha. Nous ne savons pas vraiment ce que se disent les Qataris et les Iraniens entre eux. Il y a cependant un exemple qui mérite d'être souligné, et il s'agit de l'Arabie Saoudite, qui est maintenant un baromètre de la situation. Les Saoudiens ont toujours des contacts publics avec les Iraniens. Ils ont toujours des réunions avec les Iraniens à ce stade. Et le gouvernement saoudien continue de critiquer Israël, allant même jusqu'à qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide, ce qui est un langage un peu plus fort que d'habitude, surtout pour des déclarations consécutives. L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion très respecté, affirme que ces démarches visent, je cite, à apaiser l'Iran sans promettre d'actions concrètes contre Israël. Fin de citation. Et le fait qu'Israël n'ait pas vraiment critiqué les Saoudiens pour cela montre que soit ils tendent toujours un rameau d'olivier en espérant que les Saoudiens désirent de la paix, soit ils savent que ce n'est pas la véritable opinion des Saoudiens. L'Arabie Saoudite et les États du Golfe sont bien sûr situés beaucoup plus proches de l'Iran qu'Israël. Ils ont leurs propres difficultés avec l'extrémisme et la lutte contre les mandataires iraniens, mais l'Arabie Saoudite était sans doute l'un des alliés les plus solides de Trump. C'était la destination du tout premier voyage à l'étranger de son premier mandat. On se souvient encore de la célèbre vidéo avec la danse de l'épée. Cette fois, Mohammed bin Salman, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, a été l'un des premiers dirigeants à féliciter Trump pour sa victoire. Et on soupçonne qu'il y aura une extension des accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite, avec bien sûr la médiation de Donald Trump. Évidemment, la campagne de Trump reste très discrète à ce sujet. Mais beaucoup de gens s'attendent à ce que cela se produise, surtout une fois que la guerre à Gaza sera terminée. À court terme, ce serait donc une bénédiction pour Israël d'entretenir des liens avec la puissance économique et militaire qu'est l'Arabie Saoudite. Mais notre rédacteur en chef, M. Gérald Fleury, a beaucoup parlé du fait qu'à long terme, nous pouvons nous attendre à ce que ces alliances finissent par nuire à Israël plutôt que de lui aider. Mais au moins à court terme, cette nouvelle période de stabilité avec un président américain qui soutient Israël permettra à Israël de faire des choses qu'il n'a pas pu faire pendant 4 ans. Cela créera un environnement stable où Israël n'est pas constamment sur le pied de guerre, mais plutôt en ascension. Alors on s'attend à ce que cela aide Israël, au moins à court terme.
À mon avis, c'est un point vraiment intéressant à aborder, parce que c'est une sorte de microcosme de toute notre analyse sur Donald Trump. Il y a des mesures qu'on peut prendre, qui relèvent du simple bon sens, et qui, en fin de compte, relèvent de la loi de cause à effet. Donald Trump fera très probablement certaines de ces choses, et apportera des améliorations mesurables. Je pense que c'est vrai pour l'économie américaine, pour le système éducatif, pour la paix au Proche-Orient aussi. Il interviendra très probablement pour s'attaquer à la racine de certaines des grands enjeux. Il facilitera beaucoup la tâche d'Israël face aux fous génocidaires de Téhéran, du Hamas et du Hezbollah. Il s'agit là d'un avantage considérable pour Israël qui apportera une grande stabilité, mais en revanche, il ne va pas impliquer Dieu en cela de manière substantielle. Donc, on peut effectivement cesser de faire certaines des choses terribles et vraiment bêtes que fait l'administration actuelle, et cela aidera beaucoup. Mais pour aller au cœur de ces problèmes et les résoudre complètement, il faut une repentance bien plus profonde que cela et un changement bien plus profond que le fait d'arrêter de faire les choses les plus lunaires. Par exemple, donner des milliards de dollars à un ennemi qui veut vous tuer. On peut évidemment améliorer la situation en cessant de le faire. Mais ce ne sera pas la seule et unique solution au problème du Proche-Orient. Et ce faisant, en recherchant certaines de ces solutions humaines, on peut parfois introduire de nouveaux problèmes. Les accords d'Abraham en sont un exemple. Il se comprend pourquoi Donald Trump œuvre avec acharnement pour la paix au Proche-Orient. Tout le monde veut la paix, et il a même évoqué, avec Israël, la possibilité de faire appel à certaines de ces nations tierces, les nations signataires des accords d'Abraham, pour maintenir la paix. On imagine facilement Donald Trump, avec son art de négociation, conclure un traité de paix à Gaza qui s'appuierait sur les accords d'Abraham. Il pourrait faire appel aux Émirats arabes unis et d'autres pays pour fournir des soldats de la paix à Gaza, afin qu'ils patrouillent dans la région plutôt que les soldats israéliens, voire que ces pays prennent en charge la gouvernance de la région afin de ne pas la redonner au Hamas. On envisage facilement un tel arrangement. Et vous avez évoqué un article de janvier 2021 intitulé « Défaut mortel dans les accords de paix au Moyen-Orient », dans lequel M. Fleury écrit « Nous désirons tous la paix. Malheureusement, ces récents accords de paix ont un défaut mortel. » Et il parle des accords d'Abraham. La prophétie biblique nous éclaire profondément sur ces accords. Elle prédit en fait que certaines des nations arabes modérées s'uniront, un peu comme nous le voyons aujourd'hui. Pourtant, selon la prophétie, elles ne coopéreront pas avec les États-Unis ou Israël. On voit donc comment cette faille, ce piège mortel, pourrait devenir encore plus mortel si les nations signataires des accords d'Abraham sont ensuite invitées à Gaza. Dans la conclusion tirée par M. Fleury dans son article, il aborde la foi d'Abraham et il écrit « La question est de savoir si ces dirigeants mondiaux recherchent la paix à la manière de Dieu. » M. Trump et Netanyahou parlent beaucoup d'Abraham, mais ils ne parlent pas de ce qu'Abraham a fait et de la façon dont il a vécu. Abraham était tellement fidèle et obéissant qu'il était prêt à sacrifier Isaac, le fils unique de lui-même et de sa femme, parce que Dieu l'exigeait. Abraham a placé toute sa confiance en Dieu. C'est pourquoi il est décrit comme le père des fidèles, Romains 4, 19-22. Pour avoir une paix véritable, nous avons besoin de la foi d'Abraham. Voilà l'élément qui manque dans cette équation. Il faut revenir à la foi en Dieu, et non à la foi en l'homme et à ses accords de paix. Et vous avez déjà vu Netanyahou dire « Eh bien, nous allons voir les accords d'Abraham s'étendre avec le retour de Donald Trump ». Je pense alors que cela donne un aperçu de ce que fera Donald Trump. Comme je l'ai déjà dit, il arrêtera certaines des bêtises les plus évidentes. Mais ce dont nos nations ont vraiment besoin, c'est de foi en Dieu et de se tourner vers lui pour trouver les solutions. Je pense que le retour de Donald Trump nous permet de faire passer un message qui n'aurait pas pu être diffusé autrement, car Barack Obama et Joe Biden étaient en train de réprimer la liberté d'expression. Nous sommes alors très reconnaissants pour cette possibilité. Mais en fin de compte, la solution à nos problèmes va bien au-delà de Donald Trump. La solution à ce qui se passe au Proche-Orient va bien au-delà de Donald Trump.
En effet, je suis heureux que vous ayez fait le lien avec cela, car cela va bien s'intégrer à l'article que j'allais évoquer. La prophétie à laquelle nous avons fait allusion cette fois-ci se trouve dans 2 Rois 14, versets 26 à 28, dont nous avons longuement discuté lors de la couverture des élections.
Mais en fait, nous ne nous sommes pas trop attardés sur ce sujet. Je pense que nous avons déjà évoqué la réalisation de la prophétie, mais que nous n'ayons pas beaucoup parlé de ce passage dans le détail. En effet, 2 Rois 14 est un passage que beaucoup de gens considèrent comme faisant partie de l'histoire biblique. Les livres de Rois et de Samuel sont appelés les anciens prophètes. Ce sont donc des écrits prophétiques. Dans 2 Rois 14, il est question de Jéroboam II. Et ce même personnage, Jéroboam, est évoqué dans le livre d'Amos, un livre rédigé par un prophète qui s'agit effectivement d'une prophétie, et une grande partie de cette prophétie ne s'est pas encore accomplie parce qu'elle concerne les temps modernes. Tout cela nous dit qu'il y aura un Jéroboam moderne. Amos nous le dit lui-même. Il nous dit de revenir en arrière et lire ces passages dans les anciens prophètes, car cela nous en dira plus sur ce Jéroboam qui autrefois a conduit Israël à étendre ses frontières plus que jamais. Après en avoir parlé auparavant, nous avons reçu quelques questions à ce sujet de la part de nouveaux auditeurs. J'ai donc décidé de profiter de l'occasion pour faire un bref résumé. Cela dit, voulez-vous revenir sur ce que vous avez dit ?
Bien sûr, nous parlons souvent dans cette émission du fait que Jéroboam a été envoyé pour sauver les États-Unis en particulier. Dans ce passage, il est question de l'affliction amère que subit l'Amérique et de l'absence de secours pour Israël. Et le livre de M. Fleury, L'Amérique sous attaque, entre plus dans le détail à ce sujet. Nous l'évoquerons probablement dans d'autres épisodes aussi. Mais je voudrais me pencher pendant un instant sur le verset 28 qui dit que Jéroboam a fait la guerre afin de récupérer des territoires pour Juda. Il était au moins impliqué dans une guerre qui a aidé les Juifs. Dans la trompette de septembre 2022, M. Fleury a écrit un article portant sur ce verset. Il a écrit, et je cite, « Cela indique que Jéroboam récupère quelque chose pour aider Juda, la nation juive. Ce verset établit un lien entre la politique américaine et israélienne. » Plus loin, il écrit, « Dès l'investiture de Joe Biden, j'ai prédit qu'il y aurait davantage d'attaques terroristes palestiniennes en Israël en raison du changement de leadership. C'est exactement ce qui a commencé à se produire. N'importe qui devrait être en mesure de comprendre pourquoi. » Un peu plus loin, M. Fleury écrit en majuscule « Il semble que dans une certaine mesure, Trump doit redonner à Juda sa liberté, afin que l'œuvre de Dieu puisse même espérer de diffuser le message de Dieu aux villes de Juda. » Fin de citation. Donc, encore une fois, nous nous attendons à une résurgence en Israël liée à la résurgence aux États-Unis, et nous nous attendons à ce qu'elle se produise en rapport avec les actions de cet homme, ce Jéroboam du temps de la fin. Et nous nous attendons à ce que cet homme soit Donald Trump. Il n'était même pas encore à la Maison Blanche, et déjà nous voyons certaines de ces choses se produire. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les bonnes nouvelles pour Israël, ce dernier n'arrivera pas maintenant à dominer le monde. Tout cela se produit afin qu'un message puisse être diffusé à Juda et aux autres peuples mentionnés dans la prophétie, afin qu'ils puissent comprendre pourquoi toutes ces malédictions se produisent en premier lieu, afin qu'ils sachent pourquoi Dieu laisse ces circonstances se produire, et ce qu'ils peuvent faire pour y remédier. Il est évident qu'une meilleure situation en matière de sécurité en Israël va rassurer beaucoup de gens, mais espérons également que les gens se posent des questions sur l'avenir. Il vient de vivre une guerre vraiment effroyable. On espère qu'ils se demandent ce qu'ils devraient faire pour aller de l'avant. Et Dieu veut faire savoir à ces gens ce que signifie aller de l'avant, pas seulement physiquement, mais aussi en renouvelant leur contact avec lui.
Et à long terme, nos enjeux sont bien plus importants. Et je pense que la plupart des gens le comprennent. Nos difficultés sont bien trop importantes pour être résolues simplement en changeant de dirigeant. Et c'est ce que nous avons dit même pendant le mandat de Joe Biden. À savoir qu'il s'agit de changer sa vie sur le niveau individuel. Ce sont nos péchés qui sont à l'origine de nos principaux enjeux nationaux et sociaux. Et même les choses comme notre faiblesse en matière de politique étrangère et la facilité avec laquelle nous nous plions à la volonté des terroristes, toutes ces choses proviennent de l'effondrement de la société. Cela provient de nos échecs en matière d'éducation des enfants. Cela provient de nos problèmes familiaux, la généralisation du divorce, les femmes qui dirigent la famille. Tout cela conduit à l'effondrement du moral, au manque de force, au manque de capacité à se défendre, même sur la scène internationale. Un nouveau dirigeant ne change rien à cela. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il offre une occasion pour diffuser le message de Dieu. Et tout cela fait partie du plan de Dieu pour corriger ces problèmes, les corriger au niveau de la famille, au niveau individuel, et de le faire d'une manière globale. Une fois que l'on aura accompli cela, il est possible d'avoir une paix et une prospérité au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais cela nécessite un changement au niveau individuel et pas seulement au niveau politique. Et cela s'applique non seulement à la société américaine, cela s'applique également au Proche-Orient. Tant de personnes ont essayé de résoudre les problèmes du Proche-Orient. Bon, Donald Trump ne va pas apporter une paix permanente au Proche-Orient, mais il s'agit en fait d'une étape importante qui y mène. Et la prophétie biblique va dans ce sens. Il y a donc encore beaucoup de bonnes nouvelles. Et tous les articles que nous avons mentionnés aujourd'hui vous donneront plus d'informations et vous permettront d'approfondir votre compréhension de ces bonnes nouvelles et la lumière qui éclairera bientôt le Proche-Orient, et aussi le monde entier. Merci beaucoup d'avoir présenté tout cela, Mihailo. Merci à George Haddad et à Isaac Lorenz pour l'ingénierie et la production. Si vous avez des questions ou des retours, soyez les bienvenus à nous contacter à lettres@latrompette.fr. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous serons de retour bientôt. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.